Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 34, Daf Lamed Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Et voilà ce que Rava propose. Regel Hava. Il s'agissait l'incident en question de l'éclat de salive sur le Kohen Gadol avec le Tzedouki. C'était pendant un Yom Tov, pendant une fête de pèlerinage. Et il y a une disposition particulière. Les Chachamim ont décrété pour faciliter la vie des gens pendant les régalim où tout le monde monte à Yerushalayim, ont décrété qu'une Toumat de Amaretz, un Toumat de principe, pendant les fêtes de pèlerinage, les Chachamim la considèrent comme si elle était pure, dirtive. Ainsi qu'il est écrit, on ramène un pasouk qui est dans Shoftim, dans le Nar, dans le chapitre 20 de Shoftim, le pasouk 11. Voyez, Asef kol ish Israël el ha'ir ke ish echad chaverim. Tous les hommes d'Israël se sont rassemblés dans la ville comme un seul homme, tous unis. Akatou vasa'an kulan chaverim. Le verset considère qu'ils ont tous le statut de chaver. On joue un peu sur le mot chaver en prenant au sens de quelqu'un qui est makpid sur la tum'a et la tahara en s'appuyant sur ce verset. Autrement dit, les chachamim ont suspendu les interdictions concernant les maharetz pendant ces fêtes de pèlerinage. Et donc, d'après Rava, le Kohen Gadol n'était pas inquiet en ce qui concerne le caractère de Amaret du Tzedouki, puisque c'est suspendu pendant cette période-là. Nous avons ainsi terminé avec la Mishnah. Nous passons à la Mishnah.
Cette Mishnah comprend trois discussions entre Beit Shammai et Beit Hillel, dans lesquelles, d'ailleurs, paradoxalement, on trouvera que c'est Beit Hillel qui est plus strict et Beit Shammai qui l'est moins. Et il s'agit de cas très différents, certes, mais qui ont un certain point commun, à savoir qu'il s'agit de femmes qui ne sont pas, d'après la Torah, des Nida ou des Ava, mais qui ont d'autres raisons de Touma, soit d'après la Torah, soit d'après les Chachamim. Et il s'agit de réfléchir sur le statut de leur saignement. Est-ce que ces saignements vont être porteurs de Touma, totalement, partiellement ou pas du tout? Pour bien comprendre les cas, nous devons également introduire une notion nouvelle qui est la notion de Mayanot, telle que la Gemara le définit. Littéralement, Mayanot, ça veut dire des sources, des sécrétions. Alors, on appelle Mayanot, chez l'homme ou chez la femme, des sécrétions liquides qui ne quittent le corps qu'après s'être accumulées un peu. Ce que la Gemara qualifie de mit'agel v'yotze, des choses qui se mettent d'abord en gouttes et ensuite elles sortent. C'est-à-dire, contrairement au sang, au saignement utérin des femmes qui sortent au fur et à mesure. La salive, par exemple, ne sort pas au fur et à mesure, mais on la réunit en un petit groupe compact et ensuite on la jette. De même, l'urine se rassemble dans la vessie avant de sortir. Alors, ces mayanot s'appellent mitagel veyotze, elles ont un statut particulier. Notamment, il y a trois catégories d'impures de la Torah, lorsqu'il s'agit de juifs, qui ont également une impureté de leur mayanot. Il s'agit chez l'homme du Zav, c'est-à-dire celui qui a eu un certain nombre d'écoulements dont on a déjà parlé. Et lorsqu'il est Zav, ses Mayanot sont également impurs, Avatouma. De même, il s'agit de la Nida ou de la Zava, dont les Mayanot, c'est-à-dire la salive et l'urine, ou d'autres sécrétions éventuelles, sont appelés Mayanot et sont impurs. Seulement, il faut savoir que ces Mayanot ne sont impurs que lorsque ces liquides sécrétés sont encore humides. Une fois qu'ils sont secs, ils ne sont plus impurs. Alors, enfin, nous avons le cas très particulier du Metzora ou de la Metzoraat, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme qui est atteint d'une impureté due à des affections de la peau, telles que les décrit la Torah dans Tazria, principalement. Et il faut savoir que, là également, la Torah a prévu un statut de Mayanot, c'est-à-dire que les écoulements qui sont mit aglim beyotzim, qui se rassemblent avant de quitter le corps, ont également une impureté chez le Metzora ou chez la Metzoraat, et comme on va le voir tout de suite dans la Mishnah, ceci a une incidence sur la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel que nous allons maintenant aborder. Donc voilà la Mishnah. Dam Ovedet Kochavim. S'agissant d'une femme idolâtre, bien entendu une femme idolâtre peut avoir des saignements utérins comme n'importe quelle autre femme. D'après la Torah, le sang d'une femme idolâtre n'est pas du tout impur. Mais les Chachamim ont institué une impureté chez ces femmes. Et alors, voilà ce que dit la Mishnah. Dam Ovedet Kochavim, le saignement le sang qui est émis par une non-juive, Vedam Taora Shel Metzorat, ou bien le sang émis par une femme qui est atteinte de l'impureté de Tsaraat, mais qui se trouve dans son statut personnel dans les jours de Tohar, c'est-à-dire, comme on l'a déjà précisé, le 8e jour après la naissance d'un garçon jusqu'au 40e, ou le 15e jour après la naissance d'une fille jusqu'au 81e. Donc ces deux femmes-là font l'objet d'une discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Shammai et Metaharim. Beit Shammai disent leur écoulement sanguin de l'une ou de l'autre sont purs. Beit Hillel omrim, tandis que Beit Hillel disent non, keroka ou chememe raglea. Le sang de ces femmes est comparable à leur salive ou à leur urine, sous-entendu, ils sont source d'impureté, mais uniquement lorsqu'ils sont liquides et, ou humides, mais pas lorsqu'ils sont secs. Autre discussion. Dama yoledet selo tavla. Quel va être le statut du sang des jours de pureté d'une femme qui a accouché mais qui n'est pas allée au mikvé? Bet shamay omrim keroka ou chememe raglea. Bet shamay disent c'est comparable à sa salive et à son urine, autrement dit, ça ne rendra impur que lorsque c'est encore humide. Ou Beit Hillel omrim, metame lach riavesh. Beit Hillel disent, sous-entendu, étant donné qu'elle n'est pas allée au mikvé, le principe de dam toar, de sang pur, n'est pas encore appliqué, comme on le verra dans la Gemara. Et donc, metame lach riavesh. Ce sang d'une femme qui a accouché, qui est dans les jours de pureté, mais qui n'est pas allée au mikvé, chez l'otavla, il rend impur aussi bien lorsqu'il est sec que lorsqu'il était humide. Toutefois, il y a un cas particulier, c'est le cas de Yoledet Bezov, d'une femme qui accouche au moment où elle est elle-même déjà, à cause de saignements antérieurs, Zava, et qu'elle n'est pas allée au mikvé, elle n'a pas encore eu les 7 jours de pureté et le mikvé, ce qu'on appelle Yoledet Bezov. Au moment où elle a accouché, elle était impure en tant que Zava. Modin Beit Shammai reconnaît dans ce cas-là qu'il faut être plus strict, Shehim et Tamea Lach Veyavesh, que dans ce cas-là, le sang qu'elle a même pendant les jours de pureté, donc après à partir du 8e jour après la naissance d'un garçon ou à partir du 15e jour après la naissance d'une fille, ce sang est impur aussi bien sec que lorsqu'il est encore humide. Et en fait, c'est-à-dire même d'après la Torah. Et la Gemara va s'interroger à propos du début de la Mishnah qui disait que le sang d'une non-juive n'est pas tamé. L'Agma s'étonne parce qu'elle a amené une braïta dans laquelle il dit clairement que c'est tamé au moins d'après les Chachamim. Est-ce que Beit Shammai ne tiennent pas compte de ce qui est marqué dans une braïta? La braïta commence par citer le deuxième pasouk du chapitre 15 de Vayikra qui dit la chose suivante. D'Avrou el Bnei Israël, Bamartem ish ish ki ezav bipsaro. Parlez au Bnei Israël et dites-leur, tout homme qui aura eu l'impureté de Zov émanant de sa chair, etc. Et puisqu'on dit Béné Israël, la Braïta dans un premier temps dit Béné Israël, Mitamein Meziva. Les Juifs deviennent impurs par ces écoulements de Zov. Et pas les non-Juifs, qui ne sont pas impurs. Aval Gazrou Alem Shiyu Kezavin Chol Divrem. Mais les Chachamim ont institué que les non-Juifs sont considérés pour toutes les conséquences que cela représente comme des Avim. Donc cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Autrement dit, une non-juive est considérée comme Zava, elle a été instituée comme telle par les Chachamim, et donc son sang devrait être considéré comme le sang d'une Zava. Comment est-ce que Beit Shammai peut considérer que c'est pur? L'Agmar répond. Amri lach Beit Shammai. Beit Shammai te répondra. Echil le aved. Comment est-ce que les Chachamim pourraient statuer d'une manière cohérente vis-à-vis du sang de cette femme non-juive qui a une impureté de Zava, Miderabanan? Si nous disons que le sang, il rend impur même lorsqu'il est déjà sec, sous-entendu comme le sang d'une femme qui est Zava d'après la Torah, ainsi tout que chez le Torah, tu le rends équivalent à celui d'une Touma qui vient de la Torah, et ceci n'est pas correct. Pourquoi? Parce que systématiquement les Chachamim, lorsqu'ils instituent une Touma, font une différence ou un allègement par rapport au dîme de la Torah, afin que l'on n'en vienne pas par erreur, et malencontreusement, lorsqu'on a rendu impur de la terouma, les prélèvements que l'on prend sur les récoltes d'Eretz Israël, qui ont une kedusha, qui doivent être gardées pures, ou bien les kadashim, les parties des sacrifices, lorsqu'ils ont été rendus impurs par une source d'impureté de la Torah, on doit les brûler. Mais si c'est une source d'impureté qui a été décidée par les Chachamim, on ne doit pas brûler cette terouma et ces kadashim, ce qui serait une avéra, une transgression en soi-même. Et donc, on ne peut pas le rendre comme celui de la Torah. Et alors, autre proposition, qui est évidemment celle de Beth Hillel et que Beth Shammai va contester, l'itamelach, vela l'itameyavesh, si nous décidons que ce sang va rendre impur lorsqu'il est humide, mais pas lorsqu'il est sec, chalakta beshel Torah. Tu prends le risque que l'on fasse la même différence par rapport à du sang qui est impur d'après la Torah, c'est-à-dire le sang qui s'écoulerait d'une femme juive, et que l'on rendrait impur même uniquement lorsqu'il est humide et pas lorsqu'il est sec. Et c'est pourquoi il a été préférable d'après Beth Shammai que les Chachamim instituent de ne pas rendre du tout impur ce sang. L'Agma dit, achi, si tu raisonnes ainsi, roka ou memeragle anami, pourquoi ne dis-tu pas la même chose pour sa salive et pour son urine? Tu pourrais également dire qu'on va les confondre avec de la salive et de l'urine qui sont impures d'après la Torah. L'Agma dit non. Kevam de avdina nekera bedama. À partir du moment où les Chachamim ont fait une différence nette par rapport au sang de cette femme, Meda yedia de roka ou memeraglea de rabanan. Il est bien connu que sa salive et son urine ne sont rendues impures que par les Chachamim, et sous-entendu, on n'en viendra pas à risquer de brûler de la terouma ou des kadoshim lorsqu'ils ont été en contact avec sa salive ou son urine. La Gemara demande, voilà, ave de kera de roka ou memeraglea. Pourquoi on n'aurait pas fait l'inverse, de faire une différence concernant sa salive et son urine, ou le tamouille et le dama, mais de rendre quand même impur son sang? L'Agma répond, roka ou memeraglea de shriche gazrou beu rabanan. Les salives et l'urine qui sont courants, les chachamim ont institué une impureté. Dama de l'oshricha, mais son sang qui n'est pas courant, qui est moins fréquent, les chachamim n'ont, lo gazrou beu rabanan, les chachamim n'ont pas. Rava va venir et va nous parler d'un cas où Beth Shammai serait d'accord avec Beth Hillel pour un cas d'un homme. Alors il s'agit ici d'un homme qui est Zav, et on va faire une différence entre les deux écoulements. On les a déjà cités plusieurs fois. Il y a l'écoulement séminal habituel, le sperme, qu'on appelle Shichvat Zera, qui est émis lors d'une éjaculation. Et il y a des écoulements qui peuvent rendre l'homme impur, et il devient ainsi Zav, qui sont des écoulements qui viennent également du même organe, mais qui s'écoulent sans excitation particulière, qui n'a pas le même aspect blanchâtre et sirupeux que le sperme, qui s'appelle Zov. Et voilà ce que dit Rava. Zovo tamé afilu le Beth Shammai. Si un non-juif a un écoulement de Zov, de ce liquide particulier qui s'appelle Zov, même Beth Shammai reconnaît qu'il est tamé. Tamé, bien sûr, d'après les Chachamim. Par contre, Kirio, son sperme, s'il s'agit de Shichvat Zera, Taor afilu le Beth Hillel. Il est considéré comme pur même d'après Beth Hillel, qui en général est plus sévère sur les impuretés émanant des non-juifs. La Gemara va expliquer. Zov otame afilu le Beth Shammai. Pourquoi est-ce que l'écoulement de type Zov est impur même d'après Beth Shammai? Deha, ika le meva de kerabe kirio. Puisque nous sommes amenés à faire une différence en rendant pur sa matière séminale, il faut bien que l'on rende impur quelque chose afin que l'on sache qu'il y a une impureté des Chachamim. Kiriotaor afil le Beth Hillel. Inversement, la matière séminale d'un non-juif sera pure même d'après l'opinion de Beth Hillel. Pourquoi? Avud be Ravana Nekera. Les Chachamim ont fait cette différence, qui est ri de l'olisrof à l'etrouma avec Kadashim, afin que l'on n'en vienne pas, concernant les écoulements qui émanent d'un non-juif, à brûler à cause d'eux de la trouma ou des Kadashim, et donc même Beth Hillel reconnaît la nécessité de cette distinction. La Gemara va poser une question semblable à une question précédente. La vie des Kerabezovo ou le Tamouye le Kirio. Pourquoi est-ce que les Chachamim n'auraient pas fait la différence en ce qui concerne le Zov en le rendant pur, ou le Tamouye le Kirio, et de plutôt rendre impur la matière séminale de Shichvat Zera du non-juif? La Gemara répond, Zovo de l'Otalib Maasé. L'écoulement de Zov qui ne dépend pas d'un acte volontaire de la part de l'homme qui en a été l'objet, Gazrou Berabanan, Chachamim l'ont rendu impur. Kirio de Talib Maasé, tandis que l'émission de sperme qui dépend d'une volonté de la part de celui qui en est l'auteur, la Gazrou Berabanan, Chachamim n'ont pas décidé de mettre une impureté dessus. La Gemara va essayer d'amener une preuve à ce que dit Rava. Rava est un Amora, donc il a besoin de preuves soit de Mishnah, soit de Braïta. Et alors la Gemara dit, les Mamesaïa, les. Est-ce que nous pouvons dire que la Mishnah que nous allons citer, qui est de Masechet Mikvaot dans le 8e Perek, est un appui à ce que dit Rava. Voilà ce que dit la Mishnah. Il s'agit ici, bien sûr, on parle que du point de vue technique, de pureté et d'impureté, sans parler de caractère strictement interdit des relations dont on va parler. Une non-juive qui a eu une relation avec un juif. Et ensuite, Palta Shichvatzera Mesrel. Ultérieurement, elle a laissé s'écouler du Shichvatzera, donc la matière séminale qui provenait d'un juif. Temea, cette matière séminale est impure, en raison de sa provenance. Ou Bat Israël, c'est Palta Shichvatzera Mina Oved Kochavim. Par contre, dans le cas contraire, où c'est une juive qui laisse s'écouler de ses entrailles de la matière séminale qui provenait d'un non-juif, Théora, cette matière est pure. Egama dit, My love Théora Gemura, est-ce que lorsque la Mishnah nous dit que la matière séminale qui s'échappe d'une juive et qui provient d'un non-juif est pure, est-ce qu'on ne veut pas dire qu'elle est totalement pure, sous-entendu, même d'après les Chachamim, ce qui serait une preuve pour ce qu'a dit Rava. Egama dit non, l'eau. On ne peut pas amener une preuve de là-bas. On peut toujours dire que Teora Midoraita, elle est pure aux yeux de la Torah. Temea Midrabanan, mais que les Chachamim ont imposé sur cet écoulement séminal une impureté de Chachamim. Alors la Gemara va donc amener une autre preuve à l'appui de Rava, essayer d'amener une autre preuve à l'appui de Rava à partir d'une Braïta. Tashma vient y apprendre une Braïta. Et au milieu de cette Braïta, nous allons tourner la page et passer au second feuillet, donc au verso du Daf 34, Daled Amud Bet, Nim, c'est Omer. Tu en viens à la conclusion suivante. Voilà ce que dit Abraïta. Shikhvat et Rachel Israël te met à Mechol Makom. De la matière séminale qui provient d'un juif, elle est impure en tout lieu. Nous tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daflamet Dalet Amud Bet.
Et précise la Braïta, en tout lieu, va filou bimé omenet kochavim. Quand bien même il émanerait des entrailles d'une non-juive. Le shel omenet kochavim teora bechol makom. Et celle d'un idolâtre, elle est pure en tout lieu. A filou bimé israéli. Quand bien même cette matière séminale s'échappe de l'utérus d'une juive. Chout mimer aglaïm sheba. Sauf l'urine qui serait mélangée avec cette matière séminale. C'est-à-dire que s'il y a de l'urine du non-juif qui a été mélangée avec la matière séminale, cette urine, elle a une tum'a, et par conséquent, l'ensemble serait tamé. Mais s'il y a uniquement de la matière séminale, dans ce cas-là, elle est pure. Donc, apparemment, la Braïta semble dire que le shichvatzera d'un non-juif est pur, comme l'avait dit Rava. Et à toute la Gemara, et si dans cette Braïta, vous voulez également dire que lorsqu'on dit pur, c'est d'après la Torah, mais que c'est quand même impur d'après les Chachamim, à tout meraglea, mais est-ce que l'urine du non-juif, midoraita minotamu, est-ce que d'après la Torah cela est tamé? Sous-entendu, non. Il n'y a pas de touma chez l'urine du non-juif, si ce n'est par l'institution des Chachamim. Et donc, vu qu'on fait la différence entre de la matière séminale pure et de la matière séminale mélangée avec de l'urine, c'est donc qu'elles ont un statut différent. Et la Shemitah, tu peux donc déduire de cette Braïta, Théora, que la matière séminale d'un non-juif, elle est pure, afilu midrabanan, même d'après les Chachamim et la Gemara dit Shemamina. Cette conclusion est valable, autrement dit, cette Braïta, elle, est bien une preuve pour ce que proposait Rava. Revenons maintenant à la première loi que la Braïta avait apportée. Amar, Mar, nous avons dit, littéralement le maître avait dit, Shikhvatzera Shilitzrel Temea Bechol Makom Abidu Bimeer Obedel Kochavim. La matière séminale qui provient d'un juif est impure en tout lieu, quand bien même elle émane de l'utérus d'une non-juive. Et Agmar a dit, Tishot de Baer à Papa. Est-ce que cette Braïta ne permet pas de solutionner la question posée par un papa? De Baer à Papa. On est père à Papa, qui est un Amora, a posé la question suivante. Shikhvatzera Shel Israël Bimeer Obedel Kochavim Maou. Quel est le din de pureté ou d'impureté du Shikhvatzera d'un juif
lorsqu'il s'écoule des entrailles d'une non-juive. L'Agmara dit, betor shlosha lo kamibayel el rapapa. Si cet écoulement a lieu pendant les trois jours qui suivent l'émission de ce sperme, la question ne se pose pas à Rapapa. En effet, on a un principe dans l'Agmara que pendant les trois premiers jours, pendant les 72 premières heures qui suivent l'émission de Shirvat Zera, et qui se trouve donc dans l'utérus d'une femme, il n'y a pas encore de décomposition, et donc il reste totalement impur. Qui kamibayele, quand est-ce que la question se pose pour Rapapa? L'achar shelosha. Après que les trois jours se soient écoulés depuis le moment où cette matière séminale a été émise. Maï, quel est le statut de cette substance? Est-ce que nous devons faire une différence entre le fait qu'elle se trouve dans l'utérus d'une juive ou d'une non-juive? Ce que la Gemara va exprimer dans ces termes. Israël de Daïgé le Mitzvot. S'il s'agit de l'utérus d'une juive qui a des soucis pour accomplir le Mitzvot, Chavil Goufayou, son corps est chaud littéralement. Il est un facteur de décomposition parce qu'il est très chaud. Le souci des Mitzvot rend plus élevé les organes d'une juive. Ou Masriach, et ceci amène à décomposer la matière séminale après les trois jours. Tandis que s'il s'agit d'une non-juive qui n'a pas le souci des mitzvot, la chavil goufayou, il n'y a pas une telle chaleur dans son corps, mais la masriach, et on n'est pas amené à considérer qu'après trois jours, la substance en question se soit décomposée. Odilma, ou peut-être, étant donné que les non-juifs mangent des créatures répugnantes et des insectes qui rampent, chavil goufayou masriach, ceci élève la température de leur corps et amène à une décomposition rapide. Donc on a un argument pour et un argument contre le fait qu'il y aurait une décomposition après trois jours si le sperme en question se trouve dans l'utérus d'une non-juive. Et la Gemara dit, en ce qui concerne cette question de Rapapa, qui n'est que après les trois jours, tekou, on n'a pas de réponse.
La Mishnah disait donc, Dam Taora Shel Metzora'at, Bet Shamay, Metarim, etc. Rappelons donc ce que disait la Mishnah, que le sang des jours de pureté concernant une femme qui est atteinte de la pureté de Tzara'at, Bet Shamay considère qu'il est pur même s'il est humide, et Bet Hillel dit c'est comme la salive et l'urine. La Gemara a recherché la raison de Bet Hillel, et ceci va venir d'un verset que nous citons tout de suite, c'est le 33e verset du chapitre 15 de Vayikra, le dernier verset donc de Metzora, qui dit Vadava benitata vaza vetzovo. En ce qui concerne une femme Zava lors de son écoulement, ou bien Azav, un homme qui est Zav, et Zovo avec son écoulement à lui, la Zachav, la Nekeva, pour un homme ou pour une femme, ou pour un homme qui aura une relation avec une femme impure. Et alors, voilà ce que dit la Gemara, Maïtama de Bet Hillel. Quel est le motif pour lequel Bet Hillel considère le sang comme si c'était l'une des Mayanot? Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak répond, Lazachar, le terme Lazachar de ce verset, qui est en plus le rabot Metzora le Mayenotav, vient impliquer qu'un homme qui est Metzora a également une impureté pour ses sources en quelque sorte. On a déjà dit Mayanot, les liquides qui s'échappent de son corps en s'étant regroupés auparavant. Mais la Nekeva, et le mot la Nekeva, le rabot Metzora at le Mayenotav, ceci vient également inclure pour une femme qui est atteinte de l'impureté de Tzara'at, qu'il y a une impureté pour ses sécrétions de type source, de type Mayanot. Et la Gemara demande Mai Mayanotera. Que veut dire le mot ses sources ou ses sécrétions à elle? Il est ma chère Mayanotera. Si tu veux dire qu'il s'agit des autres sécrétions sous-entendues en dehors de ses saignements, donc la salive ou l'urine par exemple, Mi Zahar Mafka. On peut déjà l'apprendre du fait que le mot Zahar inclut des sécrétions qui se trouvent également chez l'homme et chez la femme, à savoir l'urine et la salive. Et là, donc, le mot, la Nekeva qui vient inclure d'autres Mayanot chez la femme, le Dama, ceci ne peut venir que pour son sang. Et donc, pour quel sang doit être décrété impur qui autrement serait pur? L'Agmara répond, le Tamé Dam Tahora chez la. Ce verset vient nous apprendre qu'on rend impur le sang pur de cette femme-là, c'est-à-dire cette Metzora'at, qui normalement devrait avoir un sang pur, à savoir le Dam Tohar qui suit la naissance d'un garçon entre le 8e et le 40e jour, ou la naissance d'une fille entre le 15e et le 80e jour, ce sang devient impur parce qu'elle est Metzara. Et la Gemara dit au Bet Shammai. Et comment Bet Shammai justifie-t-il son point de vue? La Gemara répond que va Mizachar la Atia. Pour Bet Shammai, il considère qu'on ne peut pas apprendre les Mayanot d'une femme à partir du mot Zahar, des cas de Mifrar. En effet, on peut objecter à cette comparaison en disant Mal Zahar Shekentaoun Perio Prima, peux-tu comparer le statut d'un Metzora, d'un homme Metzora, pour lequel il a deux règles particulières, Peria, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se couper les cheveux, et Perima, qu'il doit déchirer ses vêtements, comme cela est marqué dans le texte concernant, et Veasu Betashmishamita, et un homme qui est Metzora, il est interdit d'avoir une relation maritale pendant cette période. Thomas Binekeva de là, peux-tu dire la même chose concernant une femme qui n'a aucune de ces règles qui s'appliquent à elle, ni une nécessité de se laisser pousser les cheveux, ni de déchirer ses vêtements, ni elle n'est atteinte d'interdiction de relations conjugales pendant qu'elle est tzara'at. La Gemara se tourne alors vers Bet Hillel et dit au Bet Hillel, et pourquoi est-ce que Bet Hillel ne dirait pas la même chose? La Gemara répond, pour Bet Hillel, l'Ichtor Rachamana bin Keva velo Baezacha. Bet Hillel raisonne ainsi, Akadosh Baruch Hu aurait pu écrire le statut des Mayanot uniquement pour la femme de tzara'at, et on n'aurait pas eu besoin de l'écrire pour l'homme. Bana Amina, et moi j'aurais dit, Umane Keva, si déjà la femme qui est Tsara'a, Tchena, Teruna, Peria, Ufrima, Veena, Asura, Betash, Vishamita, qui n'est ni interdite de couper les cheveux, ni de obligée de déchirer ses vêtements, ni n'est interdite de relations conjugales, Rame Rachamana Meneta, cependant Akadosh Baruch Hu a inclus dans l'impureté qui la concerne en tant que Tsara, que Metzora'a, ses sources, Zahar, la Kolchiken, pour un homme, n'est-ce pas plus forte raison, sous-entendu, puisque l'homme, Metzora, a des règles plus strictes que celles de la femme, c'est sûr que ces Mayanot devraient être interdites. Et donc, on a ce verset en trop. Et la Gemara résonne d'une manière qui est un peu surprenante, mais qui est classique. Il mène au Inyan de Zahar. Si ce mot de la Zahar n'est pas nécessaire pour l'homme pour lequel on l'obtient par un raisonnement logique, ce n'est au Inyan de Nekeva. Considère que ceci concerne une femme qui est Metzara'at. Et Menoïdian de Mayanotea. Et si ceci ne concerne pas les Mayanot habituels pour lesquels on sait déjà qu'ils sont impurs, Tenehu Inyan et Dama. Considère que ceci concerne ces écoulements sanguins. Et quel écoulement sanguin? Un écoulement sanguin qui autrement serait pur, et donc le Tamé Dam Taora Shela. Ce verset de Lazacha qui est en pro vient finalement pour inclure le fait que le sang Taor, le sang Dam Toar d'une femme qui est Metzora'at, va être impur. Dagma dit Bet Shammai. Et pourquoi Bet Shammai n'accepte-t-il pas ce raisonnement? Dagma répond comme précédemment, Zahar, Minekeva, Loatia. Inversement également, Bet Shammai considère qu'on ne peut pas déduire les statuts d'un Metzora homme de celui d'un Metzora femme, des cas de Mifrar, parce qu'on peut objecter la chose suivante. Malinekeva, Shiken, Metame, Abéonès. Est-ce que tu peux comparer le cas d'une femme qui devient impure lorsqu'elle a un écoulement de zov, même si celui-ci est dû à une cause fortuite ou accidentelle? Thomas Bezachar de l'eau, peux-tu dire la même chose concernant l'impureté de zov d'un homme, ou ce n'est pas le cas? En effet, une Mishnah déjà citée dans Zavim explique que toute cause accidentelle d'écoulement de zov chez l'homme fait que l'homme ne sera pas impur par cet écoulement. Seuls les écoulements qui ne sont dus ni à une cause alimentaire, ni à une cause d'excitation de type libidineux ou autre, peut rendre impur un homme. Alors Gemara, comme toujours, retourne vers Bet Hillel. Où Bet Hillel? Pourquoi Bet Hillel ne tient-il pas le même raisonnement et ne dit-il pas qu'on ne peut pas déduire le cas du Metzora Zahar, du cas de Nekeva Zahar, puisque on n'a pas la même rigidité pour l'écoulement de Zav d'une femme que pour l'écoulement de Zov d'un homme? Elle m'a répondu, Kaime Vimtsora ou Pachemile de Zav. Nous on parle de Metzora et tu viens me réfuter avec des lois qui concernent le Zav. Ce qui est a priori un bon argument, à tel point que la Gemara le retourne contre Bet Shammai ou Bet Shammai. Que répond Bet Shammai au fait qu'il veut raisonner concernant Metzora avec des arguments qui viennent de Zav? La Gemara répond, Shum Tum'a Parche. Bet Shammai se contente de n'importe quelle différence entre l'homme et la femme concernant un problème d'impureté pour déduire que l'on ne peut pas déduire le cas d'un homme du cas d'une femme, puisque en ce qui concerne les hommes, l'homme a des des chumrot que la femme n'a pas. Viva Itema. Et si tu veux, je peux te donner encore une autre raison de la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Amré lacha Bet Shammai. Bet Shammai te dira. Hay lazachar mi bayele, lazachar kotziou. Le mot lazachar qui figure dans ce 33e verset du 15e chapitre de Vayikra, il est nécessaire pour nous apprendre autre chose. Lazachar kotziou, que est considéré comme zav, un mâle, dans quel que soit son âge, ben gadol, ben katan, qu'il soit adulte ou qu'il soit mineur. Toujours pareil, l'agma demande où Bet Hillel. Et que fait Bet Hillel? C'est-à-dire, sous-entendu, d'où Bet Hillel apprend-il qu'un garçon qui n'est pas bar mitzvah est susceptible de devenir impur à titre de zav? Ma réponse, nafkeloumi, zot toataza. Bet Hillel apprend du verset qui dit zot torat hazav, qui est le verset 32 juste avant, et il dit que le mot zot torat hazav vient nous apprendre, ben gadol ben katan, que ça concerne un homme aussi bien majeur que mineur. La Gemara va s'intéresser de plus près au problème de zav. Rappelons que le zav, qui a un écoulement qui provient de l'organe de la reproduction, mais qui n'est pas de type sperme, qui n'est pas de type séminal, devient impur après avoir eu deux écoulements, que ce soit le même jour ou des jours consécutifs. Et ceci concerne, comme on vient de le voir, également un mineur. Et voilà ce que dit la Gemara. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a enseigné. Kipashit Rabbi Shimon ben Lakish bezav. Lorsque Rabbi Shimon ben Lakish nous parlait, nous enseignait les règles concernant le zav, Balei Achi, il avait posé la question suivante. Ve'iya Rishona shel zav katan. Lorsqu'il y a un premier écoulement, littéralement une première vision, donc d'un écoulement de type zav chez un mineur, mahou, c'était amené de maga. Est-ce que le liquide ainsi émis rend impur par contact? Et voilà quel est l'argumentation de Rabbi Shimon ben Lakish. Un verset du 15e chapitre de Vayikra, toujours celui que nous venons de citer, Zot Torat Azav, Vachet et Semenu Shikhwazer le Tomava. Voici la loi du zav, et celui d'où s'échappe du sperme qui le rend impur. Voilà le verset. Amar Achamona, Shalvochou, il a dit, voici la loi du zav et celui qui émet du sperme. Kol, Sheshichvat, Zera, Shelo, Metamea. On peut en déduire que tout celui dont la matière séminale rend impur, Reiyarishona, Shelo, Metamea. Le premier écoulement de zav également rend impur. Veaï. Et ce zav-là, c'est-à-dire qui est mineur, qui n'est pas encore bar mitzvah, étant donné que son sperme ne rend pas impur, on pourrait proposer que sa première vision d'un liquide de type zov ne rend pas non plus impur. Odilma, ou bien peut-être, argument inverse, argument qui va dans le sens inverse, c'est-à-dire qui proposerait que cette première reïa soit impure, étant donné que s'il a une deuxième vision, littéralement, c'est-à-dire s'il a un deuxième écoulement de ce liquide de zov, il deviendra impur. Donc, mitzarfa, ce premier écoulement va s'adjoindre au deuxième. Metamia, vu sa capacité potentielle de compter avec un deuxième écoulement pour rendre le katan, le mineur, impur, il faut considérer que c'est impur. Voilà donc la question. Amar Rava. Rava a répondu, Tashma, viens et apprends. Zot Torat Azav, voici ce que dit ce verset 32. Voici la loi du Zav. Et on a dit Ben Gadol, Ben Katan. Cette loi s'applique aussi bien à un mineur qu'à un majeur. Ma Gadol Rei Areshona Shelom Etame. Puisque chez un homme adulte, la première vision qu'il a d'un écoulement de type Zov le rend impur, Av Katan Rei Areshona Namu Etame. Pardon, rend impur. De même, le premier écoulement de Zov d'un mineur rend également impur. Bah, Rav Yosef. Cette fois-ci, c'est Rav Yosef lui-même qui pose une question. Écoutez bien, parce que c'est un peu complexe. Prenons quelqu'un qui est Metzora. Donc, un homme, il est Metzora. Il a donc cette impureté de Metzora due à des problèmes de taches et de poils sur la peau. Ria Rishona shel Metzora. Et il a un premier écoulement de ce liquide Zov, alors qu'il est Metzora. Maou, j'étais tamé de Massa. Est-ce que le liquide ainsi émis va rendre impur celui qui le porte, même s'il ne le fait.
Alors Rachid nous explique que la question ne se poserait pas s'il s'agissait d'un homme qui n'est pas lui-même Metzora, parce que ce n'est pas pire que la matière séminale elle-même, qui, elle, ne rend pas impure lorsqu'on la porte sans la toucher, comme ceci est enseigné dans la Maseret Kelim. Et en ce qui concerne le deuxième écoulement, la question ne se pose pas non plus, parce que même pour un homme qui est totalement pur, le deuxième écoulement qui le rend Zav a certainement la capacité également de le rendre impur lorsqu'on le porte sans le toucher, ainsi que c'est marqué plus loin dans notre Maseret, à la page 55. Et la question se pose ici uniquement donc pour un Metzora, pour sa première vision, et voici quels sont les arguments pour et contre. Alors, tout d'abord, mais comme Ziva Mayanu Metame, on pourrait considérer que l'endroit d'où le Zov s'écoule, la Ziva s'écoule, c'est considéré comme un Mayan, comme une sécrétion dans laquelle il y a accumulation, puis ensuite écoulement, et que ça rend tamé, sous-entendu, cela rend tamé même Tum Atmasa, c'est-à-dire lorsqu'on le porte, même si on ne l'a pas touché, Odilma Lav Mayanu, ou bien peut-être ce n'est pas considéré comme un Mayan, et par conséquent il n'y aurait pas de Tum Atmasa, ce ne serait pas différent d'une simple perte séminale. Amar Rava, Rava propose une solution, Tashma vient et apprend. Il cite le pasouk de Vayikra, Zovo Tamehu, toujours un verset du 15e chapitre de Vayikra. C'est le deuxième verset qui dit Daberu el bnei Israël va martem alehem ish ish ki ezav mi besaro. Lorsqu'un homme sera atteint d'un écoulement qui vient de sa chair, zovo tamehu, son écoulement est impur. L'imed ala zov shehu tame. Ceci nous enseigne que le liquide qui s'écoule dans le cas d'un zav, il est impur. Et on va se demander de quoi on parle. Bemaï, de quel type de zov s'agit-il? Il est ma bezav greda. S'il s'agit d'un écoulement qui concerne quelqu'un qui n'a que le problème de cet écoulement, qui est un zav, qui par ailleurs est pur. L'Agma a dit que c'est évident. Et nous avons ainsi terminé le daf, l'amed, dalet.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.